L'état de santé du général Franco est toujours stationnaire. C'est ce qu'indiquait ce soir à Madrid le bulletin de santé signé par les 32 médecins qui soignent le caudillo. Dans la capitale espagnole, on a maintenant le sentiment que la fin est imminente. Madrid, Jean-Louis Huberti.
C'est du moins ce que l'on pense ici ce soir à Madrid. Le confesseur de Franco est arrivé peu avant 20h avec les sacrements. Il semblerait donc qu'une dernière fois, Franco ait reçu l'aide spirituelle de l'Église. L'épouse du Caudillo a passé une partie de l'après-midi à son chevet. Il y a eu ensuite le communiqué laconique des médecins. Et puis la speakerine de la télévision espagnole qui, peu avant 21h, a annoncé que pour cette soirée de mercredi, tous les programmes étaient changés. Pour l'instant, la longue agonie de Franco dure toujours.
La messe fut brève, célébrée par le cardinal archevêque de Madrid, Enrique Tarancón. Messe suivie avec dévotion par la foule. Une foule qui a entonné le Cara el Sol, l'hymne franquiste, tandis que 4500 soldats défilaient et rendaient les honneurs au défunt chef de l'État et au nouveau. Puis, lentement, le reste de Franco ont traversé Madrid, entouré de la garde à cheval. Derrière, debout dans sa Rolls-Royce décapotée, Juan Carlos le visage figé. Et tout le long du parcours, la foule encore, agitant des mouchoirs en signe d'adieu et scandant le nom de Franco.
Alors ça c'est la version officielle, mais il est vrai qu'il y a peu d'hommes dont la mort a déchaîné autant de liesses, de fêtes, de champagne que la mort de Francisco Franco Bahamonde, dit Franco. C'était il y a tout juste 30 ans, le 20 novembre 1975, mourait Franco. Alors vous vous dites, on a compris, là-bas si j'y suis, va donc rendre hommage à Franco. Non, en vérité, non, je vous rassure, on va pas rendre hommage à Franco, on va rendre hommage à ceux qui l'ont combattu, bien évidemment, et notamment aux brigadistes, aux brigades internationales, à ces hommes, et aussi à des femmes qui étaient venues d'un peu partout, à travers le monde, pour lutter contre le franquisme, pour lutter contre le fascisme, pour lutter contre la dictature qui a plombé notre pays voisin pendant une quarantaine d'années. Aujourd'hui, toujours, la mémoire de ces années hante l'Espagne. 30 000 morts au cours de ces 3 années de guerre civile. Et 30 000 morts disparus dans des fosses communes, fusillés de ça, de là. Si bien qu'il y a aujourd'hui des associations qui se battent pour la reconnaissance et la retrouvaille de ces restes disparus. Et qui sont autant évidemment de symboles de ces années noires de l'Espagne. Il y a très peu de temps seulement que la dernière statue de Franco à Madrid a été déboulonnée. Donc aujourd'hui, retour à 1996 et hommage aux brigades internationales. Pourquoi 1996? Parce que c'était un retour. Les brigadistes, 60 ans après, revenaient à sur les pas de leur jeunesse, j'allais dire de leurs exploits. En tout cas de leur jeunesse, et c'est avec certains d'entre eux qu'on va refaire le parcours pour évoquer ces années de la guerre civile en Espagne. Auparavant, les messages que vous avez laissés dans la boîte vocale de là-bas, si j'y suis, au 01 56 40 37 37.
C'était une manifestation qui partait place d'Italie en direction de l'Assemblée. Mais à l'Assemblée, nous n'y sommes point allés car il y avait les poulets du ministère de l'Intérieur, dont le ministre n'était pas à l'extérieur à se geler le postérieur. Bon, 13 000 personnes, paraît-il, selon les poulets. On était peut-être un petit peu plus quand même. Allez, ciao.
Attention, monsieur Mermet, attention. N'oublions pas que depuis le 15 novembre 2005, nous sommes sous la loi instituant un état d'urgence, et ceci jusqu'au 21 février 2006. Attention, monsieur Mermet, à l'article 11 de cette loi, il est dit « habilite même les autorités à prendre toutes mesures pour assurer le contrôle de la presse et des publications de toute nature, ainsi que celui des émissions radiophoniques, des projections cinématographiques et des représentations théâtrales ». Alors attention, monsieur Mermet, car il se pourrait que monsieur Sarkozy ne trouve pas très très sympathique ce genre d'émission qui appelle, en fin de compte, le citoyen à se rebeller contre l'ordre établi. Attention, monsieur Mermet, les temps changent.
Sarkozy monte sur ses petites talonnettes et sur les sondages. C'est la Sofres qui le dit. Elle est dirigée par Laurence Parisot, qui dirige également le MEDEF. Quelle heureuse coïncidence et quel bel outil de propagande aux mains de qui vous savez. Je propose donc un ultime sondage pour tous les Français. Première question, aimeriez-vous que votre voiture flambe ? Deux réponses possibles, oui ou non. Deuxième question, pensez-vous qu'il faille rester les bras croisés devant ces émeutes ? Deux réponses, oui ou non. Troisième question, aimez-vous être cocu ? Deux réponses, oui ou non. Quatrième question, apprécieriez-vous que votre femme se montre dans tous les journaux avec son nouveau mec ? Deux réponses également. Je pense que les Français répondraient non à 100%. Sarkozy aussi. Donc, et c'est la Sofres qui nous le dit, 100% des Français sont derrière Sarkozy. Voilà, j'espère qu'on sera encore assez nombreux en 2007 à avoir compris tout ça. Bisous à tous, salut.
Bonjour, on entend souvent parler du couple racaille Nicolas Sarkozy et Cécilia, et moi je voudrais parler d'un couple de militants admirables qui en Alsace se sont battus pour la défense des sans-papiers, pour la mémoire de résistants, pour les Roms, pour les Palestiniens. C'est le médecin Georges Federman et sa femme Véronique, et... est-ce une rétribution de notre affreuse société ? Ils ont été agressés, elle est morte, il est hospitalisé, grièvement blessé. Et je crois qu'il faut rendre hommage, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, certainement de vos auditeurs et surtout ceux de l'Est ont entendu parler d'eux, tellement ils étaient actifs, et je voulais leur rendre hommage à travers votre émission. Voilà, je m'appelle Bernard Sieg, je suis psychanalyste et j'habite en ce moment en Haute-Savoie. Au revoir.
Voilà, donc on est deux des repères de la Vasilicie de Brest à s'être déplacés à Paris pour manifester pour la défense des services publics. Et on est vraiment nombreux, très nombreux, et c'est extraordinaire. Bon, sur ce, on t'embrasse. Juste pour te dire que les prochains cafés auront lieu mercredi à 20h. Voilà, voilà. Et que ça grossit petit à petit, et on t'embrasse tous et toute l'équipe. Allez, salut !
Et bien voilà, c'est gay, un repère des amis de la Bastille. J'y suis à Brest, donc on a compris, mercredi à 20h. Le message aussi en hommage à Georges et Véronique Federman. On avait entendu parler effectivement par d'autres auditeurs et des amis de ce drame. D'autres messages dans le répondeur, dans la boîte vocale de la basse, j'y suis. Et puis ensuite, on part donc sur les pas et dans la mémoire des brigades internationales.
Là-bas, si j'y suis, à Toulouse, sur les pavés rouges de la ville rose pour la manif de ce samedi 19 novembre, on est, je pense, un bon millier de personnes sous le soleil occitan. Et j'espère que c'est à plein endroit ailleurs pareil. Bonne lutte, salut les services publics, on est là.
Sarkozy, l'homme qui désire, Sarkozy, l'homme qui désire, Sarkozy, l'homme qui désire.
l'orage des Bretons du Morbihan.
Petit Gigi.
Le Parti Socialiste droitisé, motion Hollande, a pris comme exemple quand même depuis quelque temps le Parti Socialiste de Schröder en Allemagne, allié avec la droite, et le parti donc de Tony Blair ultralibéral. Quand on les voit donc se mettre à chanter au Congrès du Mans en chœur et le poing levé l'international, je sens monter en moi un sentiment de révolte et d'écœurement contre ces gens de la gauche caviar, privilégiés depuis des années, qui font aussi partie de la France d'en haut. Ils n'ont pas le droit de s'approprier ce poème révolutionnaire, symbole de la lutte des classes et des luttes des premiers socialistes révolutionnaires, les vrais. Ce chant est l'hymne du mouvement ouvrier mondial, celui de la Deuxième Internationale en 1904. Je ne vois aucun rapport entre ce chant et nos chers socialo-droitisés.
Celle-là, vous la connaissez?
Oh, je connais toutes. C'est dommage que je n'ai plus de voix pour chanter.
C'est en français, là.
Je te passe, nous sommes, nous soyons toujours. C'est la lutte finale. Pour nous, c'est demain. La terre, je ne peux pas, sera le genre humain. La lutte finale, comprends-nous, c'est demain. La terre nationale sera le jour. Imagine que tu chantes. En camp de concentration ne donnait rien, j'allais boire de l'eau à la fontaine pour donner le sein à ma fille.
Arriva il stadio!
Salut, c'est Daniel Mermet. Là-bas, si j'y suis, en Espagne, avec les anciens des brigades internationales.
Flight number 2, arriving from New York.
Compañeros y camaradas de las brigadas internacionales y los pocos españoles que hoy nos encontramos aquí.
Avec les anciens des brigades internationales, Albacete, un vieil espagnol, rend hommage à ses vieux compagnons, toujours vert,
avec la section Terrain, toujours rouge. Avec des Allemands, il expliquait avec évidemment beaucoup d'émotion qu'il ne les comprenait pas, mais il avait beaucoup appris d'eux parce qu'il faisait tout ça avec beaucoup de tendresse et beaucoup de foi.
Vous avez beaucoup d'énergie et votre discours était très énergique.
Mais toi, tu brilles d'émotion.
Je suis un peu ému.
Yo les hubiese querido decir, pero no me gusta alargar las cosas.
Je n'aime pas rendre les choses trop longues.
Mais quel âge avez-vous, monsieur?
Voy a hacer ahora 83 años.
Je vais avoir 83 ans.
Dans deux mois, me faltan. A primeros de año, 83.
Dans deux mois, j'aurai 83 ans.
Vous êtes en forme, hein? Qu'est-ce que vous pensez en ce moment de retrouver tous ces brigadistes, tous vos amis?
He vivido dos años con ellos.
Moi, j'ai vécu deux ans avec eux.
Bien, j'étais voluntario con ellos.
Moi, j'ai fini par m'enrôler en tant que volontaire avec les brigadistes.
Es que nos hacía falta quitar aquello que teníamos, que no vivíamos.
On avait besoin d'eux. Ils devaient nous aider à enlever ce mal qu'on avait chez nous.
Solo vivían los grandes terratenientes, los que tenían dinero, los pobres. Malamente podíamos ni estudiar ni siquiera.
La situation en Espagne à l'époque était terrible. Seulement les grands propriétaires de terres pouvaient vivre. Les autres ne pouvaient ni étudier ni manger quasiment.
La libertad y la democracia es cuando vivimos todos bien. Aquí tengo un nieto que está estudiando y es ingeniero. Antes no podía ser. Su abuelo, que soy su abuelo, yo no pude conseguir nada, nada, nada más que lo que he podido aprender por esos mundos.
Vous voyez, moi je suis grand-père, j'ai un petit-fils avec moi, eh bien il est ingénieur. Moi j'aurais jamais pu faire ça.
Me lo he traído para que vea el ambiente de todo esto.
J'ai voulu l'emmener avec moi, je voulais qu'il voit tout ça et je voulais qu'il sache.
A mí las brigadas internacionales me han enseñado mucha vida.
Moi j'ai appris beaucoup, beaucoup avec les brigades internationales.
El todo.
Les cloches des vêtres peuvent sauver la révolte, c'est l'organisation seulement qui peut sauver la révolution.
La lutte continue.
sabes mi paradero. Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero. Lucho en el frente de Huesca, primera línea de fuego. Lucho en el frente de Huesca, primera línea de fuego. Aunque me tiren el puente y también la pasarela. Aunque me tiren el puente y también la pasarela. Me verás cruzar el Ebro en un barquito de vela. Me verás cruzar el Ebro en un barquito de vela.
Tu te promènes à Elche, à Alicante, ou à les belles jeunes filles qui nous ont pris comme des bons dieux. On avait un tel idéal, moi, je n'ai pas osé les toucher. Ils nous prenaient tous comme des Russes. Et quand on a dit qu'on n'est pas Russes, elles étaient déçues. Ah.
Madrid, Albacete, Barcelone, hommage aux anciens des brigades internationales, 60 ans après, en Espagne, où 300, 400 survivants, 60 ans après, donc des gens qui ont autour de au moins 80, sont revenus faire retrouver leurs 20 ans. Ils avaient 20 ans en 1936 et ils venaient, gens de peu, ouvriers, petits, sans grade, des quatre coins du monde, 50 pays, pour lutter contre le fascisme, contre les inégalités, pour la liberté, pour la démocratie. On sait ce que fut cette guerre aujourd'hui, qui appartient évidemment à l'histoire. Il faut rappeler que le 17-18 juillet 36, c'est le soulèvement militaire franquiste, disons, pour simplifier, contre la République espagnole et son gouvernement de Front Populaire. Une guerre civile qui va durer 3 ans, avec des affrontements d'une violence inouïe entre le camp républicain et les insurgés fascistes. Chaque camp sera soutenu par des puissances étrangères. Chaque camp sera diversement soutenu. Un conflit qui sera marqué par des massacres de civils très durs, avec aussi des affrontements entre anarchistes et communistes. Le tout a laissé dans la conscience, dans la mémoire espagnole, un profond, très profond traumatisme. Les séquelles sont encore sensibles dans ce pays, mais pour le monde entier, la guerre d'Espagne a été un des grands symboles de ce siècle. Personne à l'époque ne pouvait, ne devait, n'est resté neutre, n'a pu avoir, n'a cru avoir un œil étranger à ce qui se passait là. Et la guerre d'Espagne a révélé et fondé la sensibilité politique de dizaines de millions d'hommes. Aujourd'hui, souvent sans même le savoir, nos sensibilités politiques doivent beaucoup à cette épopée tragique. Mais ce qui nous a intéressé, évidemment, c'est les hommes et les femmes. Il y avait des femmes dans ces brigades internationales. Vous avez entendu Rosa, cette infirmière, chanter très émue, l'internationale. Et là, on va prendre avec eux le train d'Albacete à Barcelone. Albacete, c'était une des bases des brigades internationales. C'est là que c'était l'état-major, c'est là que ça se passait, c'est là qu'on arrivait, c'est là qu'on s'entraînait, et qu'ensuite on partait plus ou moins bancal, plus ou moins expérimenté au front. Ces combattants, entre guillemets, pour la plupart, n'étaient pas des militaires. Certains avaient fait la guerre de 14, s'étaient battus un peu, mais la plupart avaient une idée qui était de lutter contre le fascisme. Et là, on va les suivre, on va prendre ce train jusqu'à Barcelone, d'Albacete à Barcelone avec eux, et évidemment, sur le quai de la gare d'Albacete, c'est l'émotion, c'est les adieux. Ils ont... ça fait 60 ans, donc certains reviendront sans doute, mais pas tous. Gare d'Albacete, départ des vieux brigadistes pour Barcelone, avec tous ceux qui les ont accueillis ici et qui viennent, qui sont venus leur dire adieu sur ce quai. Alors, gracias, il y a des jeunes avec des grands panneaux, gracias, pour les remercier, il y a des gens qui leur apportent des fleurs. C'est un peu le bazar, c'est un peu la panique. Et on va monter dans ce train.
Coches 3 à 8.
8. Par la silla de ruedas
républicain,
tenemos
sur lequel...
el coche número 3. Monsieur Dame, con el brigadiste nos hago el negocio en una ocho o número
10. Adiós con el corazón, que con el alma me puedo al despedirme de ti. De sentimiento yo muero.
Vous êtes entre des vieux brigadistes et des tout jeunes gamins.
Hablando mucho.
On peut vous demander, vous vous êtes rencontrés là, exceptionnellement ?
Oui, 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 on s'est rencontrés là. Je suis prof de français ici. Et...
ici, à Albacete ?
Oui.
Et vous avez rencontré les vieux brigadistes ?
Oui, ici, ici.
Ils ne reviendront plus ?
Et ?
Ils ne reviendront plus ?
Je pense pas.
Steve Fullerton chante.
Vous dites au revoir, vous êtes très jeune.
Ouais.
Quel âge vous avez ?
22.
Et pourquoi vous êtes ému comme ça ? Qu'est-ce qui fait que vous êtes aussi ému ?
Parce que je les admire beaucoup et je les ai beaucoup pour moi. Et ils sont en face, je les ai connus et j'ai connu qu'ils sont fantastiques.
Et ouais. Pourquoi vous avez 22 ans ? C'est fini cette histoire-là, non ? Vous y croyez encore ?
Ce n'est pas fini.
Attention, je rogue à los señores acompañantes de los brigadistas. Se retiren un poco de las puertas con el fin de saber si están todos en el tren.
No, no, José Luis.
Mi amiga.
Que no se puede bajar. Yo, el Fred, no vive en otro wagon. Voy más de 6 en el coche. Que él viene en otro wagon.
Don't come now.
Sí, sí.
D'où êtes-vous? D'où venez-vous?
I'm from London.
Vous êtes avec vos décorations, le béret, l'étoile rouge, etc. Qu'est-ce que vous pensez en ce moment?
What are your thoughts right now?
I don't know. They're all everywhere.
Elles vont n'importe où en ce moment.
I've never received such a reception in my life.
C'est la première fois que je reçois une telle réception dans ma vie.
It's really wonderful.
Un tel accueil, c'est merveilleux.
C'est automatique à la porte, hein?
Todos personas, muchas gracias.
On est en train de traverser des paysages que vous avez traversés il y a 60 ans.
Ça n'a pas changé là. Là. C'est le même paysage. Les villes ont changé. Les villes, on les reconnaît plus. Tout neuf, tout autre, tout moderne. Et là, ça n'a pas changé, vous voyez. C'est exactement la même chose. Les terrains vagues, soi-disant, on a l'impression que c'est tout des terrains vagues. Mais là, il y avait du blé, là. Vous voyez, maintenant c'est sec, ça. Les herbes là, les herbes.
Qu'est-ce que vous ressentez au cours de ce voyage?
C'était joli, c'est une bonne impression, mais on est un peu triste que beaucoup de bons camarades et beaucoup d'amis ne sont plus là.
Ouais.
on aurait aimé les revoir là, boire le vino tinto d'Espagne et puis dire les souvenirs, les bêtises, toutes sortes qu'on s'est racontées ici. Quand il n'y avait pas fumé quand les gris, les paquets gris, les cubes là, que les gens envoyaient manquaient pour rouler une cigarette.
Le gris,
tabac gris.
Oui,
ça manquait. On prenait des herbes sèches là.
Des
herbes. Avec des bouts de papier journal, on roulait des cigarettes. Fumait un peu, ça piquait un peu la langue. Et tous ces copains sont plus là. J'ai reconnu là dans le groupe américain, je ne sais pas où, j'ai reconnu un type de visage, il me semblait. Moi, je me suis rappelé de lui, mais il aurait fallu avoir les photos de jeunes. On était gamins à l'époque, 23 ans, j'étais avec une photo de gamin.
83 ans, Arthur Friedlich, il s'appelle, il est suisse, et quand il avait 23 ans, 1936, il a rejoint les brigades internationales. 40 000 se sont engagés, communistes en majorité, mais pas que communistes, à rejoindre ces brigades qui se sont forgées en Espagne pour lutter contre le fascisme après le coup d'état militaire, le soulèvement militaire de juillet 1936. On sait qu'il y a eu le contingent le plus important a été le contingent français de 10 à 15 000 Français ou venant de France se sont engagés dans ce combat. 5000 Allemands et Autrichiens, 3350 Italiens, 2800 Américains, 2000 Britanniques, dont le héros de l'Inde and Freedom. Et il y a eu aussi des Chinois. Oui, il y a eu deux Chinois qui sont venus de Chine quand on imagine ce que pouvaient être les difficultés pour se déplacer à l'époque. Ça a été évidemment une aventure formidable. Liz London, l'épouse d'Arthur London, qui est dans ce train, nous dira « Notre passé est riche d'avoir voulu changer le monde. » Mais la question est toujours la même. Comment avoir la foi sans avoir la religion ? On va passer ce voyage, un bout de ce voyage, avec Arthur Friedlich, qui avait 23 ans en 1936. Pourquoi avez-vous rejoint les brigades à l'époque ?
Je suis antifasciste.
Un Suisse antifasciste ?
Antifasciste, oui. Il y en avait en Suisse. Il n'y a pas que les communistes. Ils sont dans les brigades, et les socialistes, et les je ne sais pas quoi. Antifascistes, c'est tout.
Vous faisiez quoi à l'époque ? Vous étiez un intellectuel, un étudiant, un travailleur ? Vous étiez quoi ?
Non, j'ai appris relieur. Métier de relieur. Encuadernador, en espagnol. Oui. C'est un métier... Grève de faim. Mais après, il y avait...
Vous vous souvenez du jour où vous avez décidé de partir ?
Oui, en novembre 36, quand on a lu les premiers articles dans les journaux sur les brigades internationales devant Madrid, dans le site universitaire, qui ont stoppé les franquistes. Et quand j'ai lu ces articles sur les journaux, on avait dit, tiens, on va aussi là-bas, on se rend les copains. Et le 16 décembre 36, je suis parti de Burtorf, c'est dans l'Emmental, près de Berne. Je suis parti.
Seul ?
Oui.
Tout seul ?
J'avais une adresse de Villeurbanne, par des connaissances, par le téléphone arabe, par le petit doigt qui me disait. Une adresse Villeurbanne à Lyon, où il y avait les camarades, c'est tout communiste là-bas. Alors, ils m'ont demandé dans quelle section tu es en Suisse. J'ai pas dit pas de section, comme si j'étais un peu déçu. Mais on était camarades tout de suite avec les Français. Pour moi, mon deuxième pays, c'est la France, à part la Suisse. J'étais avec les Français, fantastique. Les Français, des mineurs du Nord. Connu un mineur du Nord. Un héros de la résistance que j'ai connu en Espagne. Julien Apio, qui venait de Grenet, pas de Calais. Il m'a donné l'adresse quand on s'est dû quitter parce qu'on était retiré en 38. Fin 38, on était retiré. Alors j'ai dit au revoir à Julien Apio, c'est un mineur du Nord, Grenet. Il m'a donné l'adresse, je l'ai encore dans la tête. Cité du Maroc 623, Grenet, à de Calais.
60 ans.
Julien Apio, mon camarade. On a écrit, il y avait la guerre, Et après, quand l'Allemagne avait occupé, j'ai plus écrit. Plus tard, j'ai appris, après la guerre, j'ai réécrit. Et puis, j'ai reçu la réponse, la même adresse. C'est les parents qui ont élevé ce Julien Appiot, ont écrit, j'ai la lettre à la maison. Ce Julien Appiot, en Espagne, il était dans la première bataille de Teruel, dans le bataillon Tchapaïev, grâce à la France. Et quand j'ai connu Julien Appiot, on était frères. Il ne parlait pas l'allemand, mais je parlais français avec lui. La lettre que j'ai reprise après la guerre, ils m'ont écrit que ce Julien Appiot était dans les FFI. Un jour, quand il est allé à Paris chercher les nouvelles, parce que ceux du Nord, les mineurs, paraît qu'ils n'étaient pas toujours d'accord avec ceux de Paris, surtout concernant le pacte de non-agression Ribbentrop-Molotov. Il y a eu des tensions, il y a toute une histoire tragique là-dessous. Là.
Oui.
La mémoire d'Aix, ça vous dit quelque chose, la mémoire
d'Aix?
Tout à fait. Quand j'ai vu ça à la télé française, il y a 200-300 ans, j'ai pas dormi une nuit, deux nuits. Et pas que croire qu'on a pu faire des saloperies pareilles. Tuer les propres camarades, les meilleurs, pour respecter une ligne de parti.
Vous étiez... Est-ce
que vous... heureux de ne pas être du parti communiste, parce que j'aurais été un condamné à mort aussi. À ce moment-là, j'ai pu ça. Alors, il m'a écrit ses parents. Il était à Paris pendant l'occupation, capitaine de FFI, cherchait les nouvelles, les paroles, donc de passage. Et il était arrêté à Paris, vendu par des traîtres du propre parti, je ne sais pas. Ce n'est pas prouvé. Toutes les explications sont possibles, toutes les suppositions. Il était fourni aux Allemands à Arras, dans l'hôtel de ville. Dans la grande salle d'Arras, Julien Appiot était condamné à mort avec d'autres. Et il était fusillé le 23 septembre 1943 dans les citadelles d'Arras. J'ai pris ma voiture et ma femme, j'ai dit, viens, on va voir. Excusez-moi. On est parti à Arras, Lens. Arras s'est demandé où sont les monuments des morts. Et j'ai vu, il y avait une plaque de marbre, chaque plaque est 4 noms. On a cherché les plaques, j'ai trouvé Julien Appiot, fusillé ce 36, avec une institutrice et deux autres mineurs qui étaient le même jour condamné à mort à Arras et étaient fusillés là. J'ai pleuré.
Parias de la tierra, empieza América legión. Los proletarios gritan guerra hasta el fin de la opresión. Borran rastros del pasado, arriba esclavos todos en pie. El mundo va a cambiar de base, los nada de hoy todo han de ser. Abruémonos todos en la lucha final. El género humano es la internacional.
Si je comprends bien, vous n'avez jamais été communiste.
Non, communiste, je tenais avec les communistes, avec les socialistes, on était internationalistes. À la maison, on n'allait pas à l'église, mais on avait à l'école, on avait l'éducation de public et tout à l'école. Quand on était tout petit, on a cru à toutes ces histoires, ces fables, qui sont certaines fables de la Bible, ont une certaine valeur éducative pour les petits, qui restent braves, qui aiment les parents, qui estiment. Ça, c'est valable pour tout le monde. C'est valable. C'est aussi, ça, dans les 10 commandements, Il y a des choses qui sont valables pour chaque communiste. Tu ne dois pas voler, tu ne dois pas tuer. Alors c'est quoi? C'est l'humanisme. C'est l'humanisme que le communisme, humanisme, communisme. C'est la même chose.
Et le stalinisme là-dedans?
C'est une tragédie terrible pour nous, messieurs. Chaque fois, je ne peux pas expliquer cette tragédie qu'on a vécue quand on a su toutes ces saloperies, que ce vieux con qui est venu fou et fasciste, notre fascisme, Staline, et après Brejnev, que ces cons-là qu'on fout, qu'on fait, ils ont détruit le mouvement mondial, ouvrier mondial, combien de fois? Tous ces mecs, tous ces vieux cons qui ont réuni à Moscou. Puis on l'a, c'était notre grand espoir avant la guerre. 10-20 ans après la guerre, on n'a rien encore pas su. Tout d'un coup, on a su l'aveu de Prague. Arthur London, comme ils l'ont torturé à Prague pendant les procès pour qu'il signe, pour sauver sa peau, pour qu'il signe une chose qu'il n'avait jamais fait. Après, on les a réhabilités.
Quand est-ce que vous avez appris? Quand est-ce que vous avez découvert?
Quand il y avait le film L'aveu avec Yves Montand, avec ses lunettes, qui jouait le rôle d'Arthur London, torturé, je me suis dit encore que salaud c'est Yves Montand, c'était pour moi un copain, salaud Yves Montand, il joue un rôle d'un contre-révolutionnaire. Et puis après ça m'a dit, non, je cherche le livre. On a passé des nuits sans sommeil, on a su des trucs. Je me suis plus occupé de politique. Pendant longtemps, on vit des terribles drames intérieurs de conscience. Il régnait encore sur la Russie, mais c'était un fasciste d'une autre forme, un fascisme d'une toute autre forme. Je finis pas à me libérer, à oublier toutes ces saloperies. C'est incroyable. Des meilleurs copains qui ont toute leur carrière sacrifiée pour le mouvement ouvrier, socialiste, international, ont été secoués, ont été trahis, ont été pendus. Puis après 10 ans plus tard, on les réhabilite. Moi, je ne marche plus. Je ne veux plus rien savoir du bureau politique, ni d'un comité central, ni d'un secrétaire central, ni d'un plénum, ni d'un congrès de parti, ni respecter aucune ligne politique, surtout pas d'un parti unique, etc. Vous voyez ce que je veux dire, n'est-ce pas? Répéter des paroles d'un parti, qu'on voit tout de suite que c'est illogique, n'est-ce pas? Mais si tu ne les répètes pas, tu es condamné à mort. Vous avez vu le film? La mémoire d'Aix, là. Et ces gens étaient condamnés à mort par Torres et Duclos et par le comité central à l'époque en France. Les meilleurs communistes de France étaient tués par des communistes français.
Toujours vert et toujours rouge, à 83 ans, Arthur Fridley n'a pas abandonné, n'a pas renoncé à s'affronter à cette épuisante liberté. Ils étaient communistes, beaucoup étaient communistes, il faut comprendre, d'ailleurs faut-il les excuser d'avoir été communistes. On est 20 ans après, à peine 20 ans après la révolution d'octobre, la grande lueur rouge qui s'était allumée à l'Est, et le mythe soviétique s'installait dans les esprits, dans ces temps de crise qui frappaient l'Occident, chômage, misère, injustice, et toute une humanité souffrante qui recevait la propagande soviétique avec les belles kolkhoziennes qui pétaient la santé, les ouvriers fiers et musclés en train d'édifier à coups de faucille et de marteau tout un monde nouveau. Le monde allait changer de base et une grande religion laïque était née et beaucoup ils croyaient. Tous, cependant, n'étaient pas communistes, étaient des petits, des sans-grades. Ils venaient, je l'ai dit, de plus de 50 pays. Ils étaient 35 000, 40 000. Et on sait comment Ernest Hemingway ou André Malraux les ont mis en scène, ont raconté leur histoire, qui se situe d'ailleurs exactement entre deux mots, deux titres, entre l'espoir et pour qui sonne le glas. Certains n'avaient pas attendu les consignes. Dès juillet 1936, il y avait à Barcelone, se sont tenues à Barcelone des Olympiades antifascistes, parce qu'au même moment, à Berlin, Hitler étant au pouvoir, évidemment, se déroulaient les Jeux Olympiques. Et donc les démocrates, les antifascistes, avaient organisé ces Jeux Olympiques. Et dès le coup d'État du 17, le soulèvement militaire franquiste du 17 et 18 juillet, ils se sont portés, ils ont constitué d'une manière un peu empirique, évidemment, ces brigades internationales. Les autres, par la suite, sont venus dans des conditions très difficiles, sans argent, rencontrant l'hostilité de leur pays pour pouvoir sortir, refouler, emprisonner le long de la route, qui était très longue, et tout ça pour donner jusqu'à la dernière goutte de leur sang. C'était leur vœu, c'était leur courage. Et 10 000 ont donné leur sang pour la liberté, pour la terre, pour lutter contre le fascisme. Ils sont venus de tous les continents. Il faudrait faire attention, on va en faire des anciens combattants. Le gouvernement français va les reconnaître comme anciens combattants, mais il faut faire attention parce qu'à l'époque, la plupart étaient des sans-papiers. Mais c'était surtout, évidemment, des convaincus, des sincères, des hommes bien, qui ont un peu racheté ce siècle, l'un des plus monstrueux, comme on le sait, dans l'histoire de l'humanité. On continue ce voyage avec entre Albacete et Barcelone, avec ce héros, mais encore vivant, encore à l'échelle humaine, Arthur Fridley.
On est en train de traverser des paysages merveilleux. Hein,
ça n'a pas changé, vous voyez ces terrains-là, comme ça. C'est exactement la même chose.
Ouais.
Là, c'est le train électrique maintenant. C'était à vapeur, puis ça n'allait pas vite. Puis ça, pendant des heures, ça restait sur place parfois, la nuit, on roupillait. Soit dans les trains ou dans les camions, on roupillait. C'est le manque de sommeil qui nous a presque tués. On revenait dans un état second, parfois par le faim ou par la soif ou par le manque de sommeil.
Est-ce que vous avez douté parfois, partir?
Non, mais vers la fin. Après Teruel, quand on avait perdu Teruel. Et puis la bataille de l'Ebro était de nouveau un espoir. Et puis après on a vu, c'est foutu. Quand on a vu cette aviation, des journées entières que des avions qui bombardaient. Puis nous, on n'avait plus rien. On n'avait plus d'avion, on n'avait plus rien. On ne voyait plus les tanks, on ne voyait plus les artilleries de notre côté. Tout comme moi, je n'avais plus vu. Alors là, j'avais compris, c'est fini, c'est foutu. Mais j'aurais eu honte. Même si quelqu'un m'aurait apporté un laissez-passer pour aller jusqu'à Perpignan à la frontière, je n'aurais pas été. J'ai eu honte. Je suis resté avec ceux qui commandaient jusqu'à la fin, jusqu'à ce qu'on nous a retirés. On nous a retirés du front Sylvestre 38.
Ça, Sylvestre 1938.
Ils ont dit, ce wagon-là, pour les Suisses, là, les flics français, là. Le wagon était fermé des deux côtés, et au bout du wagon, il y avait un flic français. Il était gentil, on rigolait avec lui. Il était assis sur son tabouret jusqu'à Genève. Nîmes, Bessier, dites-moi les villes, là. Perpignan, Bessier, Narbonne, Nîmes, Avignon, Valence, on roupillait. On ouvre, c'était l'hiver, on ouvre les yeux, il y avait 1 mètre de neige, c'était vers Grenoble. Lendemain à midi, on arrive à Genève. Calme, enneigé, plus de guerre, plus de bombes. Hein, comme maintenant dans le train. On arrive comme ça à Genève, on va les rues, là, les gens, dans, se promener, tout le monde pied à pied, pas de vitre cassée. On revenait dans un autre monde. J'ai jamais oublié. Genève, la ville de mes rêves. Je suis allé dans le Suisse allemand, Wals, chez mes parents encore, après on a fait tribunal militaire, prison, et après c'était la mobilisation, c'était 5 ans de service militaire en Suisse. Allez. Pendant la guerre, j'ai trouvé du travail mieux payé à Genève. Depuis 50 ans, je suis à Genève, j'habite Genève, mes trois garçons sont nés à Genève, sont genevois. Et pas le français.
Est-ce qu'ils sont fiers de vous, les garçons?
Oui. Hein? Ils me disent, papa, parle pas des années 30. Tu pleures. Ils savent pas ce que c'est. Je leur ai raconté. Ils me disent, tu pleures. On a eu d'énormes pertes dans les montagnes de Teruel. Un jour sur le Mouleton, ça bombardait jour et nuit. Des copains morts partout, tout partout. J'avais une chance terrible. Après cette blessure à Madrid, à Teruel, j'étais un des seuls survivants.
Qu'est-ce que ça fait la première fois qu'on tue un homme?
Moi, j'ai jamais tué un homme.
Comment?
J'ai jamais tué un homme.
Comment ça? Vous avez fait la guerre? Combien de temps? 2 ans? 3 ans?
Je suis pas allé voir. Je suis pas allé voir là-bas s'il était mort. Et s'il était mort, c'était pas un homme, c'était un fasciste. Puisque nous, on n'était pas des hommes non plus. On était cochons rouges de leur côté. Ah, pas vu l'écriteau, là. Tout à l'heure, là, à Albacete, un écriteau encore. Brigade internationale, assassinos.
Assassinos.
Oui, c'était marqué, là, sur un truc, là.
60 ans après.
Oui, là, on n'a pas vu. Pour eux, nous, on était des assassins. Et pour nous, le fasciste était l'assassin. Vous m'avez dit, tu es un homme. Si j'ai tué quelqu'un, je ne sais pas. Si j'ai tué quelqu'un, ce n'était pas un homme, c'était un fasciste.
Ouais.
Mais au pape, à l'église, au curé, au prince des églises catholiques depuis des siècles, on ne leur dit pas qu'ils sont meurtriers. Combien ils ont tué dans l'inquisition? Combien jeunes tué en bénissant les armes? Tous les armes de monsieur étaient bénies par Rome. Franco n'a jamais été renié par le pape, ni avant ni après.
C'est désertique, il n'y a pas du tout d'habitation, il y a des
unifiés par... les arbres là, Almendros.
Almendros.
Amandier.
Ah, des amandiers partout, ouais, amandiers, oliviers, des grands espaces magnifiques.
Pendant la bataille de l'Ebre, il y avait des vignes comme ça, c'était l'été, les raisins étaient déjà gros comme ça, personne ne les récoltait, et puis il y avait des amandiers. Et je me rappelle pendant combien de temps, plus d'un mois, on a mangé ces gros raisins et des amandiers. Ouais. On recevait le pain et on n'entendait pas le garbanzos. Garbanzos, c'est le pois chiche qu'on avec. Garbanzos, c'est bacalao. Pois chiche est une espèce.
Morue.
Oui. C'était le menu pendant des mois, ça. D'autres ont eu du riz toujours. Et nous, on a vécu avec garbanzos et bacalao. On ne l'attendait pas. On l'a mangé quand même. On prenait même du pois.
Ah oui. Est-ce que vous avez vu le film de Ken Loach, Land and Freedom?
Oui.
Alors?
C'est trop unilatéral.
Pourquoi?
Ça se passe tout en Catalogne. C'est la fête des anarchistes et des poumes de l'époque. Là, je n'ai jamais vu, je n'ai jamais été. C'est leur affaire. Ça ne correspond pas à ce qui s'est passé ici à Madrid, ni dans les batailles de Brunete, ni à Teruel, ni... Il y a des choses, il y a des discussions qui se ressemblent.
Ouais.
Différents points de vue. Il est pas mal le film, mais c'est pas mon film.
Aujourd'hui, quand vous entendez chanter l'international, est-ce que ça a encore du sens pour vous?
Oui. Oui, ça reste valable. Ça reste valable. C'est aussi une utopie, comme l'anarchisme est une utopie. Prolétaire de tous les pays, unissez-vous, c'était uniquement ici. C'était possible, on l'a vu, possible, avec Julien Appio. Jamais connu, mon frère. Voilà, une preuve, entre autres. C'est possible, mais ce n'est pas possible. Maintenant, on fait de nouveau du nationalisme partout. Prolétaire, tous les pays, ça n'existe. Ça n'existe pas. Ça, utopie. Comme les anarchistes, l'utopie sans loi. Sans loi, sans un ordre, tu peux pas. Ça n'existe pas de vivre en société. C'est la loi du chasseur plus fort qui va chasser.
Tout à fait. Mais est-ce que vous êtes toujours internationaliste? Vous êtes un internationaliste?
Oui, mais je sais que c'est un rêve. C'est un idéal, c'est un rêve. Toujours internationaliste.
Comme vous avez encore des rêves. Tous vos rêves ne sont pas morts.
Les rêves restent les rêves. Mais je me rends compte, malheureusement, il y a des rêves irréalisables. Pourquoi? Les hommes ont toujours été les mêmes, les hommes. Il y en a des qui montent, des meneurs, et une grande masse qui obéit, qui suit derrière, soit par lâcheté, soit pour avoir le pain, ou soit par sens d'obéissance, par sens de discipline, on ne sait pas. La bêtise humaine, ils suivent, ils croient, la plupart des gens, Il leur faut toujours un bon Dieu sur terre. Le Pen va faire des lois et d'autres aussi, d'autres pays, la crise continue. Est-ce qu'il y aura de nouveau une situation comme en 1933, quand on doit choisir entre Hitler et entre le gauche et la droite, des pays entiers? On ne sait pas. Que pensez-vous? Le pire est à craindre. J'espère que, non, je compte sur les jeunes, qui auront appris avec l'histoire et qui iront dans la rue, diront pas ça.
Ils ne passeront pas.
Ils ne passeront pas. Et ils ont passé. Maintenant, ces idées restent valables, comme idée, comme idéal. Julien Appiot m'a donné, il m'a expliqué, Julien Appiot, il m'a expliqué à la Commune de Paris, j'ai appris la chanson, Madame Veto avait promis, de faire écorcher tout Paris, de faire écorcher tout Paris. Mais ce coup a manqué grâce à nos canonniers.
Son la Carmagnole.
Vive le son, Dans son la Carmagnole, vive le son du canon. Et ça ira, tous les fascistes à la lanterne. Et ça ira, tous les fascistes, on les prendra. Et si on les prend pas, on leur cassera la gueule. Et si on les prend pas. Alors un Italien, il n'a pas chanté, et si on les prend pas. Il a toujours chanté, et si on les prend pas. Et si papa. Et puis je lui ai raconté, il rigolait, il chantait. C'était des moments dans la plein de poules. On chantait des contes, on faisait des trucs comme ça. Et il m'a appris la Commune de Paris. Pour lui, Maurice Doré à l'époque, c'était le fils du peuple, le héros. Et après, qu'est-ce qu'on a appris après? J'ai dit, pauvre Julien, il va peut-être, si on ne pas le dire. Et je suis sûr, il était trahi à Marseille. Ce Julien était trahi à Paris parce qu'il n'était pas d'accord avec Ribbentrop, avec Staline. Il n'était plus d'accord avec le comité central du parti. C'est malheureux à le dire aux Français, mais je vous raconte les constatations que j'ai faites.
Merci à Arthur Friedlich et à ceux qui étaient dans ce train en 1996 et anciens des Brigades Internationales. Merci à Christina Figueras qui m'accompagnait et qui a traduit les propos de ceux qui parlaient soit espagnol, soit anglais, mais il y avait beaucoup d'autres langues aussi dans ce train. Par ailleurs, vient de paraître, et ça n'a rien à voir, France-Algérie, crime et mensonge d'État de Lounis Agoun et Jean-Baptiste Rivoire aux éditions La Découverte. À signaler également ce soir à 19h30, et ça a quelque chose à voir, 19h30, projection de Franco, la fiancée de la mort, un documentaire de José Maria Berzosa, suivi de commentaires de Ramon Chao. Voilà, c'est important. À la Cité Internationale Universitaire, 7 boulevard Jourdan, dans le 14e à Paris. Le RER, c'est la Cité Universitaire. Toutes ces informations sont disponibles sur le site de France Inter à la rubrique émission Là-bas si j'y suis, ainsi que les coordonnées des repères des amis de Là-bas si j'y suis et les jours et les heures où l'on se retrouve dans ces repères. Technique aujourd'hui, Gabriel Rouchaville et Olivier Riotor. Réalisation Antoine Chao et Yann Chouquet. Assistante Pascale Pascariello. Le répondeur, c'est Christophe Imbert. Et le numéro, c'est le 0156 40 37 37. Et voici la réclame.